rebondir alors, sur la question de la crise de l'impérialisme et pour faire le lien avec la question du racisme. Il me semble qu'il y a une question qui a sûrement été insuffisamment traitée aujourd'hui, c'est la question de la blanchité. Alors j'espère que tout le monde comprend ici que la blanchité, c'est une notion politique et qu'on ne parle pas ici de la blanchité en termes de génétique, mais bien de rapports sociaux de domination, et que les blancs dans les pays européens sont cette catégorie politique dont l'État, à qui l'État garantit des privilèges. Or, il se trouve que la question de la crise de l'impérialisme, c'est aussi la crise du monde blanc. Et c'est aussi le déclin du monde blanc. Et c'est pour ça que nous vivons aujourd'hui un moment extrêmement inquiétant. Parce que les peuples européens, de manière générale, n'ont aucune raison de renoncer à ces privilèges. Or là, il me semble que on fait une analyse un peu matérialiste des choses, il me semble que si on veut comprendre les faiblesses de la gauche face à la nouvelle hégémonie de droite, c'est que la gauche, je suis désolée, ne sait pas prendre en compte, la gauche blanche, ne sait pas prendre en compte la question de la blanchité. Si la question de la blanchité était comprise politiquement, si cette gauche était révolutionnaire au sens où elle était prête à renoncer à son privilège, et donc renoncer à son privilège faciliterait la question des alliances avec les Américains. Si elle le comprenait, on irait beaucoup plus vite vers une reprise en main politique. Or là, on est dans une impasse, parce que la gauche radicale, la gauche de gauche, ne comprend pas les enjeux de la blanchité d'une part, et d'autre part, elle ne peut que se laisser aller dans le sillage des forces d'extrême droite. Et donc c'est la raison pour laquelle il me semble que la question de l'enjeu blanc est ici absolument crucial. On est ici pour parler de racisme. Si on parle de racisme structurel, on ne peut pas parler des musulmans, des noirs ou des roms sans parler de la question blanche. Et il me semble que cette question-là, si elle n'est pas traitée politiquement, eh bien, on ne peut pas aller vers des issues politiques. L'enjeu qui est posé par ces questions, c'est que aucun de nous dans cette salle ne sait ce qu'est un monde qui n'est pas dominé par la blanchité. Personne n'a connu ça. Les normes, les structures politiques, les États-nations qu'on a hérité des indépendances sont des concepts d'État impérialiste. C'est-à-dire qu'on a hérité, même au niveau de nos structurations politiques dans les pays du Nord, de la blanchité, même dans les structures politiques, dans les normes, dans l'esthétique, dans absolument tout. C'est-à-dire que tous, autant que nous sommes pris dans les maillages de la blanchité et que personne ne sait ce que c'est un monde qui n'est pas dominé par les blancs. Or, on pourrait dire, on s'en fout. Le problème, c'est que la Chine s'est éveillée. Quand je dis le problème, c'est pas un problème. Pour la blanchité, je veux dire. Du point de vue de la blanchité, la Chine s'est éveillée. Dans le sillage, il y a la Russie. Dans le sillage, il y a l'Iran. Ça veut dire qu'on est dans la fin d'un monde. La fin de ce monde, c'est-à-dire la fin de la blanchité, c'est-à-dire le début du déclin et la fin de la blanchité, c'est en ce moment. C'est en ce moment, ça peut durer, je sais pas, ça peut peut-être durer 50 ans. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je sais pas. Si on va finir sans connaître une guerre, mais ça va peut-être durer 10 ans, ça durer 50 ans, peut-être 100 ans. Mais on est dans ce mouvement parce que les autres peuples du monde, ils n'ont aucune raison de ne pas vouloir eux aussi leur part du gâteau. Vous voyez ? Donc, la question de l'alternative, la question de la blanchité pose la question de la manière dont cette question sera prise en main par la gauche, la manière dont nous allons assumer cette question. Dans nos milieux, c'est-à-dire comment on va forcer les indigènes, parce qu'il faut comprendre quand même une chose qui est absolument fondamentale, c'est que les indigènes, globalement, en France, sont des intégrationnistes, ils sont légitimistes, ils ne cherchent pas à remettre en cause, globalement, la question de la blanchité, ils veulent simplement se faire une place dans le système. Il ne faut pas imaginer que l'indigénat qui est dans les quartiers est révolutionnaire. L'indigénat dans les quartiers, il veut la voiture, il veut une maison, il veut ça. C'est-à-dire qu'en fait, il veut être un consommateur comme les autres, donc en fait, il veut être un citoyen comme les autres, donc il veut être un blanc comme les autres. Donc on n'est pas sorti de l'affaire. La question qui nous est posée, si on parle de la question du racisme, on ne peut pas passer à côté de cette question fondamentale, c'est quoi notre utopie? Parce que évidemment, nous qui sommes ici, je pense pouvoir parler au nom de tout le monde, il n'y a personne qui veut la mort des blancs. Non, c'est pas ça la question. C'est-à-dire que la vie blanc au sens blanc de peau. C'est pas ça la question, on ne veut pas la mort des Européens, on veut leur disparition. On veut pouvoir vivre ensemble. On peut vous... Sauf que on ne peut pas admettre, nous, indigènes, de vivre comme des dominés. C'est parce que là, il y a une question de dignité. Une question de dignité qui est ici. On ne veut pas être humilié, on ne veut pas que, on ne veut pas être insulté, on ne veut pas être réprimé, on veut pouvoir respirer l'air comme tout le monde. Et là, c'est plus possible quand on est indigène, après 30 ou 40 ans de vie dans ce pays, c'est-à-dire qu'on sait de quoi on parle. Quand on est indigène, on sait qu'on a subi la regret et le racisme. Et on sait qu'on ne veut plus continuer comme ça. Mais en même temps, on peut dire à la partie qui est en face de nous, bon, il n'y a plus beaucoup d'alternatives, encore une fois, on est au bout d'une logique, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble aux alternatives, c'est-à-dire sauver notre peau ensemble. Et je le dis de manière solennelle, parce que vraiment, je crois pouvoir dire, et je le dis sincèrement, nous sommes des humanistes, en réalité. Alors en face, on va nous traiter de racistes anti-blancs, d'antisémites, de je ne sais pas quoi. C'est tout ça précisément pour empêcher une voie vraiment révolutionnaire d'émerger et de faire une vraie proposition politique, une vraie offre politique à ceux, je ne parle pas aux fascistes, perdus, évidemment. Je parle en France, d'abord aux indigènes. Les indigènes doivent cesser de croire à cette nation, doivent cesser de croire qu'ils vont pouvoir s'intégrer alors qu'on va faire que leur cracher la gueule. C'est clair et net, surtout dans un moment, je l'ai dit tout à l'heure, de fort conservatisme, de régression politique, de néo-conservatisme. C'est inimaginable de s'imaginer sortir de là, de cette manière-là. Et à la gauche blanche, mais pas qu'à la gauche blanche, à la gauche blanche, de se réformer sur ces questions. Et j'ajoute à tous ceux qui ne votent pas, à ceux qui ont abandonné, parce que les blancs, il y a plein de blancs, qui sont évidemment pas des fascistes, qui sont ni au Parti Socialiste ni à droite, qui ne votent pas parce qu'ils n'y croient plus, eh bien, la question, c'est comment on leur fait une proposition. C'est-à-dire qu'en réalité, la proposition qu'on fait, c'est la proposition qui est une proposition politique. Qu'est-ce qu'on propose aux blancs qui vont perdre leur blanchité? Il faut nécessairement leur proposer un projet positif qui soit le projet de nous tous. Donc, je finis simplement pour dire que dans les années qui viennent, aujourd'hui, il y a les élections présidentielles, ça va être la mer, on a, mais il sera nécessaire de vraiment, absolument nécessairement, repolitiser, je dis bien, repolitiser toutes ces questions.
Voilà, merci.